RFI, 7h à Paris, 13h à Bangkok, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une de votre journal, la Thaïlande et la Birmanie, au lendemain d'un important séisme.
Et nous serons dès le début de ce journal en direct de Bangkok avec notre correspondant, où les recherches se poursuivent pour essayer de trouver les disparus sous les décombres. Le dernier bilan parle de 8 morts en Thaïlande, plus de 1000 en Birmanie selon la junte au pouvoir. La junte qui appelle tout pays, toute organisation à venir porter secours aux victimes, alors que sur place, la population critique l'inaction du régime birman. À suivre aussi en Turquie, nouvel appel à la mobilisation de l'opposition aujourd'hui, une semaine après l'incarcération du maire d'Istanbul. Depuis le début de la contestation, 1900 manifestants ont été placés en garde à vue. Dans la bande de Gaza, alors qu'Israël poursuit ses opérations militaires, depuis le 2 mars, les camions humanitaires n'entrent plus dans le territoire palestinien. Les Gazaouis vivent dans la peur d'une aggravation de la situation déjà compliquée. Vous entendrez leurs témoignages. Et puis, si vous avez la chance d'être en Afrique du Nord-Ouest, une éclipse commence aujourd'hui à 8h50, temps universel. On vous en parle en fin de journal.
Au lendemain du puissant séisme qui a secoué une partie de l'Asie du Sud-Est, hier, la Birmanie et la Thaïlande toujours sous le choc et le bilan qui ne cesse de s'alourdir.
Ce matin, les autorités des deux pays parlent de 8 victimes en Thaïlande et plus de 1000 morts et plus de 1600 blessés en Birmanie. Nous sommes avec notre correspondant à Bangkok, Valentin Sébron. Valentin, ça a tremblé très fort dans la capitale thaïlandaise hier.
Oui, clairement, la presse locale assure que le séisme d'hier a provoqué les plus fortes secousses depuis 1930. Aujourd'hui, la vie à Bangkok tente de reprendre son cours. Les lignes de métro sont quasi toutes à nouveau fonctionnelles. La circulation est plus fluide. Mais dans le nord de Bangkok, là où un immeuble de 30 étages s'est écroulé après le tremblement de terre, les secours sont toujours à la recherche d'une centaine d'ouvriers coincés sous les gravats. Du côté de la Birmanie voisine, épicentre du violent séisme, les dégâts sont considérables. Comme vous l'avez dit, on recense plus de 1000 victimes, des milliers de blessés. Le bilan devrait encore s'alourdir. Fait rare et signe d'une probable catastrophe. La junte militaire qui est au pouvoir depuis le coup d'État de 2021 a demandé de l'aide hier à la communauté internationale.
Les précisions de Valentin Sébron à Bangkok.
Et Valentin qui nous le disait, le chef de la junte birmane a donc lancé un appel à l'aide internationale, ce qui est assez rare, on le rappelle. Il y aurait plus de 1000 morts selon le dernier bilan des autorités du pays. Eh bien, les réactions internationales se font entendre, Juliette.
L'Inde a envoyé un avion humanitaire dans le pays, annonce du ministre des Affaires étrangères indien ce matin. Les États-Unis vont aider la Birmanie, avait également annoncé hier le président américain Donald Trump. Mais dans le pays, déjà touché par une guerre civile, des voix critiquent l'inaction du régime birman, à l'image de cette jeune habitante de Rangoon.
En Thaïlande, le gouvernement a immédiatement pris les choses en main et a pu sauver des vies. Mais ici, c'est l'inverse. Le chef de la junte a dit qu'il allait protéger les sinistrés, mais il ne fait rien. Il a dit que la situation était très grave, mais en réalité, il s'en fiche. Les responsables du pays promettent qu'ils vont régler la situation, qu'ils vont faire tout ce qu'il faut, mais ils ne vont rien faire du tout. En réalité, ils ne se soucient pas des victimes. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur propre personne.
They only care about themselves. Témoignage recueilli par Marine de la Moissonnière.
En Turquie, la contestation dans les rues se poursuit une semaine après l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal opposant du président Erdogan.
Le parti républicain du peuple, le CHP, la formation d'Ekrem İmamoğlu, appelle à nouveau à un très large rassemblement ce samedi à Istanbul en soutien au maire incarcéré. Depuis le début de ce mouvement de contestation, 1900 manifestants ont été placés en garde à vue et 260 emprisonnés depuis le début donc des protestations. Mais parmi les partisans, certains craignent un essoufflement dans les prochains jours à Ankara, à Nandlouer.
Ali Ege a l'intention de faire le voyage depuis Ankara pour assister au grand meeting du CHP à Istanbul. Cette semaine, dans la capitale, il a participé avec d'autres étudiants à des rassemblements, mais leur ampleur était moindre que celle des manifestations de la semaine dernière. Le jeune homme de 21 ans pense pourtant qu'il est indispensable de continuer à se faire entendre.
Les manifestations peuvent et doivent se poursuivre, car ce qu'il y a derrière, ce n'est pas un seul événement, c'est un ras-le-bol général lié à la perte des libertés et à la crise économique. L'arrestation d'İmamoğlu a fait déborder le vase.
Son ami Zuhal, 22 ans, a espéré, dans les premiers jours, que la pression de la rue obligerait le pouvoir à faire libérer Ekrem Mamoudou. Il n'en est rien, mais pendant ce temps, les arrestations se multiplient parmi les jeunes manifestants. Zuhal est gagné par une forme de fatalisme.
Si on veut que les choses changent, il faut que le peuple continue de résister. Mais si je suis honnête avec moi-même, je me dis que quoi que fasse l'opposition, rien ne changera.
Pour le CHP, le rassemblement d'Istanbul doit être une démonstration de force. Mais le premier parti d'opposition turque sait aussi que, le temps passant, il risque d'être difficile de mobiliser ses soutiens alors qu'aucune élection n'est prévue à court terme. D'autant que la Turquie entame ce samedi une période de 9 jours fériés décrétée par le gouvernement pour allonger les fêtes de fin du Ramadan, peut-être dans l'espoir d'accélérer l'essoufflement du mouvement de protestation. Anand Loer, Ankara, RFI.
Et alors que la répression s'accentue en Turquie, un journaliste suédois, Joachim Medin, arrêté jeudi à son arrivée en Turquie où il devait couvrir les manifestations, a été placé en détention. C'est ce qu'a confirmé hier soir le rédacteur en chef de son journal à l'AFP.
À Gaza, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé hier près de 900 morts depuis la reprise des frappes israéliennes.
Les discussions avec les médiateurs en vue d'un rétablissement de la trêve dans le territoire palestinien s'intensifient, a également déclaré hier un dirigeant du mouvement islamiste palestinien. Alors qu'Israël poursuit ses opérations militaires sur le territoire avec ses bombardements, l'ONU a annoncé hier que ses stocks de nourriture ne pouvaient couvrir que les besoins des 2 semaines à venir. Pour rappel, depuis le 2 mars dernier, les camions humanitaires n'entrent plus dans Gaza. Sur place, la population craint une aggravation de la situation déjà critique. Ils mènent aussi une vie au jour le jour, sans grand espoir. C'est ce qu'ont confié des habitants de Gaza à Amira Swilem, basée à Ramallah.
Iyad a pris l'habitude de nous laisser des notes vocales. Cet ingénieur, père de 4 enfants, s'inquiète pour eux, mais plus largement aussi pour tous les plus jeunes.
Nos enfants à Gaza vivent dans la peur constante. Les bruits des bombes sont devenus une partie de leur vie quotidienne. Quand ils entendent les explosions, ils sont submergés par la terreur et l'anxiété. Ils se mettent alors à pleurer, à trembler et à s'accrocher à leurs parents à la recherche de sécurité.
Il y a quelques jours, l'UNICEF a déclaré que Gaza était, je cite, « le seul exemple dans l'histoire moderne où tous les enfants d'une population ont besoin d'un soutien en santé mentale ». Iyad fait le même constat.
Les enfants apprennent tôt ce qu'est la perte, la pauvreté, le dénuement. Les familles font ce qu'elles peuvent pour les consoler, mais il n'y a pas de mots, de câlins qui puissent effacer les effets de la guerre sur leur cœur fragile. C'est une enfance volée.
Un autre Gazaoui, trop épuisé pour parler, nous a envoyé un texte dans lequel il exprime sa grande lassitude et l'impression que son peuple est devenu un troupeau que l'on déplace d'un endroit à un autre sans lui demander son avis. Un humanitaire qui a quitté Gaza hier craignait, lui, de ne pas être cru en rentrant en Europe quand il raconterait ce qu'il a vu sur place. Amira Swilem, Ramallah. RFI.
Toujours au Proche-Orient, au Liban, Israël a bombardé la banlieue sud de Beyrouth pour la première fois depuis le cessez-le-feu en place depuis novembre hier. Une riposte à des tirs de roquettes qui ont visé la Galilée selon l'armée israélienne. L'armée qui accuse le Hezbollah qui, lui, n'a rien revendiqué de son côté. Et alors que la guerre en Ukraine se poursuit, il y aurait au moins 4 morts et 19 blessés dans une attaque de drones russes dans la ville de Dnipro, dans le centre-est du pays. Des frappes qui ont endommagé des immeubles et provoqué un incendie selon les autorités. Hier, tandis que l'ONU appelait à mettre fin aux horribles souffrances en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également accusé son homologue russe Vladimir Poutine de chercher à jouer la montre en évoquant l'idée d'une administration transitoire pour Kiev sous l'égide de l'ONU.
L'actualité africaine à présent, c'est une opération qui fait grincer des dents depuis plusieurs semaines. La Mauritanie mène une campagne d'expulsion de son territoire de migrants en situation irrégulière venus notamment de l'Afrique de l'Ouest.
Une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a été reçu vendredi à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould Cher Gazaouni. Les deux parties sont décidées d'apaiser leurs relations après le renvoi de Mauritanie vers le Mali d'environ 1800 ressortissants maliens en situation irrégulière. Les détails de notre correspondant régional Serge Daniel.
Premier message aux autorités mauritaniennes, le Mali n'a pas apprécié les conditions dans lesquelles environ 1800 de ses ressortissants en situation irrégulière vivant en Mauritanie ont été refoulés vers leur pays. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, devant la presse à Nouakchott.
Ce que nous avons, au nom du président, transmis à son frère, c'est la nécessité, lors de ces opérations de refoulement, de veiller à ce que ça se fasse dans les conditions qui respectent la dignité, en tout cas, qui est un traitement humain.
Les deux parties ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. L'ambassade du Mali en Mauritanie sera désormais associée de près au processus de refoulement, identité des migrants maliens, leur protection juridique et de possibles recours à formuler. L'ambassade a également obtenu le feu vert pour désormais rendre visite aux Maliens en situation irrégulière détenus sur le territoire mauritanien, ce qui n'était pas le cas juste là. Le Mali a pu obtenir également pour certains de ses ressortissants sans papier, le nombre n'est pas précisé, des facilités de régularisation. Serge Daniel, Dakar, RFI.
En France, c'était un féminicide de plus. L'assassin de Chaynaise Daoud Mounir Bouta a été condamné hier. Le verdict a été rendu hier soir par la cour d'assises de Gironde. C'est donc une réclusion criminelle à perpétuité. On en parle avec Noémie Leweller.
À l'énoncé du verdict, Mounir Bouta est resté impassible. Les jurés ont suivi à la lettre les réquisitions du parquet, la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté de 22 ans. Une peine lourde que dénonce son avocate, maître Anaïs Divot.
Ça signifie qu'il n'a quasiment aucun espoir de sortir un jour de détention. Et on peut se poser la question du sens de cette peine pour une personne qui souffre de troubles psychiatriques en réalité.
L'accusé souffre d'un trouble paranoïaque, diagnostiqué par des experts psychiatres et psychologues. L'altération de son discernement au moment du passage à l'acte a été reconnue sans pour autant entraîner de diminution de peine, ce dont se félicite l'avocat de la famille Daoud, maître Julien Plouton.
Je dirais que c'est une peine qui, à mon sens, tient compte de la gravité des faits et qui aussi, manifestement, tient compte de la personnalité de l'accusé. Premièrement, parce que l'altération du discernement a quand même été retenue. Et puis, deuxièmement aussi, parce que la possibilité d'une diminution de peine a été écartée. Et je pense que c'est précisément par rapport à la personnalité de l'accusé et à sa dangerosité.
Une autre procédure pour faute lourde a été lancée contre l'État français en matière civile, car cette affaire a aussi mis à jour les défaillances des services de justice et de police. Chaynaise Daoud avait déposé 3 plaintes avant d'être brûlée vive par son ex-compagnon le 4 mai 2021. Noémie Leweller, Bordeaux, RFI.
Et ce samedi matin, si vous êtes en Afrique du Nord-Ouest, en Europe de l'Ouest ou dans l'Est du Canada, vous aurez la chance peut-être d'assister à un joli spectacle, une éclipse, Simon Rosé.
C'est une coïncidence qui procure à chaque fois un joli spectacle. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de nous. Résultat, dans le ciel, les deux nous apparaissent à la même taille. Ce samedi matin, notre satellite va donc passer devant notre étoile. Les deux ne seront pas parfaitement alignés, l'éclipse ne sera donc que partielle. Mais cela vaudra tout de même le coup de lever les yeux au ciel. Attention cependant, même partiellement occulté, le Soleil brille fort. Il est donc obligatoire de porter des lunettes dédiées sous peine de s'abîmer gravement les yeux. Sénégal, Mauritanie, Maroc, Algérie seront au cours de la matinée progressivement survolés par l'ombre de la Lune, avant que l'Europe de l'Ouest ne profite du spectacle. Mais aussi bien en Afrique qu'en Europe, le soleil sera cependant bien moins occulté qu'au Canada. De l'autre côté de l'Atlantique, 85% de notre étoile sera masquée. Les Québécois auront donc presque une éclipse totale.
Les précisions de Simon Rosé.
Et le journal de Juliette Pietraszewski. Merci beaucoup. On vous retrouve Christophe Diremzian pour un nouveau journal des sports du football et le Brésil à nouveau au plus mal. Son sélectionneur a été limogé après une lourde défaite face à l'Argentine en éliminatoire du Mondial 2026.
Une véritable humiliation. 4-1 mardi à Buenos Aires qui a poussé Dorival Junior sans ménagement vers la sortie. Lui qui était en poste depuis janvier 2024. Pas vraiment le premier choix à l'époque pour la fédération brésilienne. Beaucoup plus désireuse de convaincre Carlo Ancelotti de prendre les rênes d'une Seleção déboussolée depuis un moment. Mais l'entraîneur italien, sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026, est interrogé hier avant le match de Liga contre Leganés, n'a pas changé d'avis. Réponse courte mais claire.
Mon contrat est clair, je crois que je n'ai rien à dire de plus. J'ai beaucoup d'affection pour la sélection brésilienne, pour ses joueurs, ses supporters, mais je suis sous contrat au Real. Est-ce que j'ai été contacté récemment par la fédération brésilienne? Non, tout simplement non.
Autre option envisagée pour la Seleção, le portugais Jorge Jesus, l'actuel entraîneur d'Al Hilal en Arabie Saoudite.
Toujours en football, la Ligue 1 et la bonne opération de Strasbourg en ouverture de la 27e journée.
Les Alsaciens l'emportent à domicile sur Lyon 4-2 et en profitent pour subtiliser à l'OL la 5e place d'un championnat où les jeux sont faits, hein, on le sait, pour le titre, le Paris Saint-Germain pourrait d'ailleurs être sacré dès ce soir si plusieurs conditions sont réunies, et notamment le résultat du match Reims-Marseille, lointain dauphin du PSG. L'OM doit éloigner la menace notamment de Monaco et de Nice qui s'affrontent dans la soirée pour le derby de la Côte d'Azur, tout en renouant avec la victoire après deux défaites. Les Rémois, eux, luttent pour ne pas descendre, mais face à des Marseillais qu'ils ont battus la saison dernière en Champagne, leur entraîneur malien Samba Diawara répète que le duel n'est pas perdu d'avance.
On ne part pas vaincu, parce qu'on s'attend souvent à ce que l'ogre marseillais ou l'ogre parisien vienne croquer le stade de Reims qui est mal en point. Mais tout comme je vous l'avais dit il y a 10 mois que c'était possible de battre Marseille, et ça a été le cas, on est capable de battre Marseille, on est capable de se relancer contre l'OM. Ils ont perdu des points qui les mettent à portée de tir de certaines autres équipes, donc forcément ils ont besoin d'assurer leur deuxième place. C'est une équipe qui est dominante. Si on enlève les stats contre le PSG, c'est une équipe qui a 70% de possession de balle, voire 80% sur certains matchs, donc ils aiment avoir le ballon. Ils attaquent en nombre. Quand ils n'ont pas le ballon, ils veulent le récupérer très rapidement en étant très agressifs. Donc on s'attend à souffrir, mais 15e de Ligue 1, tu souffres à tous les matchs. Donc oui, on va souffrir, mais on ne sera pas des victimes non plus.
Samba Diawara avant Reims-Marseille, coup d'envoi 16h, temps universel. Le PSG, lui, est à Saint-Etienne à 18h TU. Monaco-Nice est à 20h05 TU. 27e journée également en Bundesliga. Le Bayer Leverkusen domine Bochum, 3 buts à 1 en ouverture et réduit provisoirement à 3 points l'écart sur le leader, le Bayern Munich, qui reçoit le mal classé Sankt Pauli à 14h30 TU.
Et en tennis, Djokovic est en finale du tournoi de Miami.
Inusable Serbe, 37 ans et 10 mois et un match de repartir avec le 100e trophée de sa carrière après avoir facilement écarté le Bulgare Grigor Dimitrov en demi-finale 6-2-6-3. Cette finale demain sera un vrai choc des générations puisqu'il affrontera la surprise de cette édition, le Tchèque Jakub Mensik, 19 ans seulement, 54e mondial. Et puis chez les dames, la finale aujourd'hui mettra aux prises la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka et l'américaine Jessica Pegula.
Merci Christophe Diremzian. Dans Menace sur l'information ce matin, le Burkina Faso, au pays où le musellement de toute voix dissidente est devenu la règle, comme l'a affirmé hier sur notre antenne Human Rights Watch, l'ONG qui s'alarme des arrestations qui s'enchaînent à un rythme inquiétant. En l'espace d'une semaine, au moins 8 personnes, dont 5 journalistes, ont été emmenées par des hommes en civil, sans mandat ni motif officiel. Ils sont détenus dans un lieu toujours inconnu à ce jour. La répression contre la presse s'accentue depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022. Coup de projecteur sur la disparition de 2 journalistes de renom, alors qu'au vu de l'insécurité, nombre de nos confrères et consoeurs burkinabés n'ont pas souhaité s'exprimer au micro, Sidi Yansané.
Il y a une semaine à Ouagadougou, l'association des journalistes de Burkina présente son nouveau bureau national. Le président Guizouma Sanogo prend la parole et fustige la totale mainmise de la junte du capitaine Ibrahim Traoré sur les médias publics.
Une autre caractéristique, la haine et la diabolisation des médias se traduit par les enlèvements et les séquestrations des journalistes.
À côté de lui, Boukari Woba, fraîchement élu vice-président de l'AJB, une promotion de courte durée. 3 jours plus tard, des hommes se disant agents des renseignements l'emmènent avec son président, un mode opératoire devenu la norme au pays des hommes intègres. Ses confrères et consoeurs sont unanimes. Boukari était le gardien du temple du Centre National de Presse Norbert Zongo, qui faisait le relais avec les exilés. Analyste percutant, enquêteur, homme de terrain, pour son magazine Le Reporter, il livre un papier sur la disparition du milicien Django, l'une des toutes premières victimes d'enlèvement sous la junte du MPSR2. Sadi Boumarong, directeur du bureau régional de RSF.
Il a gagné pas mal de prix, Boukari. Il a la question de la disparition de Django, l'artiste milicien là, qui était devenu leader des Kolwego dans l'Est, bon, qu'on appelle Moussa Tchombiano. Boukari, c'est également un journaliste très engagé qui est tout le temps aux côtés de ses confrères aussi et qui n'a pas peur de s'exprimer pour la justice et l'égalité, mais également la dignité de la population.
9 mois plus tôt, c'est une autre vague d'enlèvement qui s'abat sur 4 journalistes, dont Atiana Serge Houlon, kidnappée à son domicile. Le directeur de publication de l'événement a été réquisitionné pour combattre au front, dira plus tard le ministère de la Justice du Faso. Pour ses confrères, Serge est un enquêteur né. Comparant son journal L'Événement à Mediapart, le site d'information français qui s'est forgé forgé une réputation mondiale en moins de 10 ans. Serge Houlon a enquêté sur le détournement présumé de 400 millions de francs CFA destinés à financer les supplétifs VDP et empochés par un certain capitaine du Centre Nord, d'après l'article. Sadi Boumarong.
Cela lui a valu une audition par le tribunal quelques semaines, mais c'est un grand professionnel dont la qualité de ses sources a rapidement attiré, disons, les nouvelles autorités pour que ces gens, ces autorités-là puissent essayer de le suivre davantage. Serge est aussi un journaliste qui recevait des prix sur la lutte anticorruption dans la presse. Il fait partie de la crème. Ce sont ces journalistes-là dont le Burkina a besoin, et donc ces journalistes ne doivent pas passer une seconde dans une prison de notre point de vue.
Pour son ultime publication en août dernier, l'événement a publié le portrait de Serge Houlon en première page. Et cet édito, titré « Qu'est-ce qui nous arrive ?», référence au climat crépusculaire du journalisme burkinabé, reconnu pour être l'un des plus performants d'Afrique de l'Ouest.
Sidi Yansané. 7h20 à Paris. Ils sortent dans les rues aujourd'hui pour protester contre les actions du gouvernement Trump. Les démocrates manifestent, mais pas à Washington. Les marches de ce samedi sont celles des démocrates de l'étranger, dans 5 villes d'Espagne. Et c'est l'occasion pour nous d'évoquer ce parti défait au mois de novembre et qui paraît depuis comme sonné. Où sont les démocrates aux États-Unis depuis le départ de Joe Biden, le retour de Donald Trump? Et alors qu'ils sont privés de majorité aux deux chambres du Congrès, quel pouvoir leur reste-t-il face au rouleau compresseur Trump, ses mesures par dizaines, le démantèlement du service public et le recul de l'état de droit, quelle réponse aussi à la colère des militants. Bonjour Jim Cohen.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole des Democrats Abroad en France. Depuis 2 mois et le retour de Trump au pouvoir, il a saturé l'espace, comme le théorisait Steve Bannon en 2018. On n'entend que lui et ses alliés. Personne dans la classe politique ne semble en mesure d'entraver ses décisions. Comment les démocrates peuvent-ils faire pour exister aujourd'hui ?
Mais les démocrates font beaucoup de choses pour exister, je vous assure. On parle beaucoup de leur disparition, mais ils sont très présents sur le terrain. Par exemple, dans des circonscriptions républicaines, il y a eu une série de rencontres publiques où on a interpellé les élus républicains à tel point maintenant que ces élus ont pour consigne d'annuler ces rencontres. Mmh. Et dans plusieurs cas, les élus démocrates vont sur le terrain là où les républicains n'osent plus se montrer. Certains élus démocrates répondent à l'appel de la base avec beaucoup d'énergie. Le sénateur Bernie Sanders et la représentante Ocasio-Cortez sont partis en tournée dans plusieurs États. Ils ont attiré des foules de 10 000, 20 000, 30 000. Il y a des élections partielles ou des élections spéciales qui arrivent et les démocrates se mobilisent pour reprendre des sièges et diminuer encore un peu plus la très faible majorité des républicains dans la Chambre des représentants. Il y a une élection pour la juge de la Cour suprême dans l'État de Wisconsin. C'est une élection qui mobilise beaucoup de monde face à l'argent de Musk qui essaie d'acheter cette élection. Sur le terrain, il y a une mobilisation exemplaire des démocrates.
Mais alors,
voilà quelques exemples.
Mais au niveau national, alors que Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance sont omniprésents, on peine à voir un leader naturel, une grande voix s'imposer. Les grandes figures du parti, notamment le clan Obama, gardent le silence. Comment expliquer ce mutisme de leur part ?
Écoutez, il faut comprendre comment fonctionnent les partis politiques aux États-Unis. Ce n'est pas comme en Europe où il n'y a pas une direction politique permanente qui il n'y a pas un leader qui serait le leader élu et le prochain candidat à la présidence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut pas chercher le leader, il faut chercher plutôt les actions à la base et qui se multiplient et on verra plus tard qui se dégage comme candidat à la présidence dans 4 ans, mais c'est encore loin. Pour l'instant, il y a les élections de mi-mandat dans moins
en
de
2026,
2 ans et on
ouais.
s'y prépare déjà.
Les États-Unis ont connu cette semaine le premier couac de grande ampleur du deuxième mandat de Donald Trump avec l'affaire The Atlantic, la révélation par le journal que son rédacteur en chef avait été intégré par erreur dans une boucle de messages non sécurisés où des responsables, notamment le secrétaire de la Défense, ont partagé des infos confidentielles sur une frappe contre les Houthis. C'est l'occasion pour les démocrates de se faire entendre, mais ont-ils le pouvoir politique de faire quoi que ce soit ?
Dans ce domaine-là, c'est difficile. Dans les pouvoirs régaliens du président, qui l'accumule, qu'il essaye d'augmenter, dans le domaine de la politique étrangère, c'est extrêmement difficile de faire autre chose que de protester. On proteste.
Oui. Et on voit aujourd'hui, en tout cas, le Parti démocrate, au-delà de protester, hélas, se diviser. Alors notamment que son leader au Sénat, Chuck Schumer, est accusé d'avoir abandonné l'un de ses rares leviers, l'une de ses rares capacités de blocage, en permettant le vote du budget républicain pour éviter le shutdown.
Oui.
Beaucoup de gens ont dit que c'était une erreur, vous le pensez aussi ?
Si vous me demandez mon avis personnel, je ne suis pas là pour en parler, mais bon, je le pense aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de démocrates qui demandent à leur direction une approche beaucoup plus énergique, beaucoup plus déterminée. Mmh. C'est ce qu'on est en train de voir.
Et ça se voit sur le terrain. Hein. Les démocrates battent aussi des records d'impopularité, seulement 27 à 29% de taux d'approbation selon les derniers sondages. Et on voit la colère des militants démocrates qui s'expriment dans les réunions, comme vous le disiez. Et c'est un peu ce qui s'est passé déjà il y a quelques années, mais de l'autre côté, quand Barack Obama était président, que les démocrates contrôlaient le Congrès, que la colère de la base avait fait émerger côté républicain le Tea Party, pourrait-on assister à un moment Tea Party aujourd'hui pour les démocrates, une colère de la base qui pourrait forcer le parti à se montrer plus radical?
Je pense qu'on pourrait assister à quelque chose de ce genre-là, mais avec un tout autre contenu, bien entendu. Il ne s'agit pas de démanteler l'État et de casser tout ce que l'État a fait de socialement utile. Il s'agit au contraire de restaurer ce que l'État a fait d'utile et de restaurer au passage la démocratie qu'on est en train de nous supprimer.
Ceux qui se font entendre, en tout cas le plus aujourd'hui, ce sont les progressistes, hein, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dont vous parliez avec cette tournée dans le pays, et avec une critique qu'on entend beaucoup, celle d'un parti démocrate qui s'intéresserait davantage aux entreprises et aux grands donateurs qu'aux travailleurs et aux classes moyennes. Quel regard portez-vous sur ce point ? C'est clair, vous dites ?
Oui, c'est tout à fait clair. Je pense que le message de Sanders, d'Ocasio-Cortez et d'autres aussi est que le Parti démocrate se sépare un peu de certains de ses donateurs qui impriment au parti un conservatisme social qui ne marche plus face aux républicains qui ont eu un programme de tout simplement de destruction de l'État et de toute forme de régulation. Les démocrates, encore une fois, ont un projet tout à fait opposé à ça et opposé également à la corruption, tout simplement, parce que quand Musk se mêle de la destruction de programmes entiers et de ministères entiers, c'est aussi, il agit aussi dans son propre intérêt. Il y a des conflits d'intérêts qui sont extraordinaires.
Mais dans le même temps, l'autre critique qu'on voit émerger sur le fond depuis la défaite de Kamala Harris, c'est celle d'un parti qui aurait trop centré son discours sur la défense des minorités, des étrangers, de la communauté LGBT. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire d'une pierre deux coups, de répondre à ces deux critiques avec un seul et même message, un seul et même projet ?
Je pense que c'est possible. Il ne s'agit pas d'abandonner au passage les minorités et les immigrés, mais il est tout à fait possible de construire des coalitions plus larges en insistant sur ce que nous avons en commun, les revendications sociales, le droit du travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation.
Revenir à des fondamentaux ?
Tout à fait. Y revenir, mais en inventant des solutions pour l'avenir.
Oui, parce que pour l'instant, on peine à voir un projet clair émerger au-delà de l'opposition au trumpisme.
C'est encore un peu tôt du point de vue électoral, mais il y a beaucoup d'actions à la base qui va être visible. Regardons par exemple l'élection pour la Cour suprême du Wisconsin, c'est demain ou c'est après-demain, c'est le 1er avril. Ça va être très révélateur parce que c'est une vraie épreuve qui est locale mais qui est en même temps nationale, face notamment aux tentatives de Musk pour acheter cette élection.
En tout cas, ces critiques sur le fond et la colère contre les cadres du parti posent la question de la relève, de leur succession. Depuis le revirement de Chuck Schumer qu'on a évoqué notamment au Sénat, certains appellent par exemple Alexandria Ocasio-Cortez à se présenter contre lui, à lui prendre sa place au Sénat en 2026. Il est temps qu'une nouvelle génération émerge à la tête du parti ?
Il est temps, cette génération est en train d'émerger. Quant à la place de Schumer, c'est très tôt, je pense que c'est en 28 qu'il se représente. Mais en tout cas, on ne peut pas le nier, il y a un courant de mécontentement contre cette forme de direction qui cherche des accommodations ou des compromis au lieu de d'essayer de tout bloquer. Je pense que l'heure serait plutôt au blocage pour ce qu'on a à faire au gouvernement le plus destructeur qu'on ait jamais vu.
Merci Jim Cohen, porte-parole des Democrats Abroad en France. Vous étiez l'invité d'RFI ce matin. À très bientôt.
À bientôt. Merci, au revoir.
Et bonne journée.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Le saviez-vous ? Le 1er juin 1957, toutes les universités du monde se retrouvent dans la ville de Caen, détruite par les bombardements alliés, pour inaugurer le premier campus de France. Un événement international pour célébrer la paix, la connaissance et la reconstruction des villes sacrifiées de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Tout à l'heure, à partir de 14h10 DU.
RFI. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Sophie Bessis pour La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture et Je vous écris d'une autre rive, lettre à Hannah Arendt. Puissante historienne franco-tunisienne qui nous interpelle sur ce judaïsme oriental au mieux ignoré, au pire méprisé.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur rfi.fr.